Bonsoir à tous. Donc je vais aborder un sujet qui est vraiment très controversé, où il y a beaucoup de débats, et je vais partager avec vous une réflexion en fait que j'ai faite autour de plusieurs articles récents et autour de la cigarette électronique. Donc l'histoire de la cigarette électronique est importante à revoir un peu pour mieux mettre les choses dans leur contexte. Alors, vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas très nouveau, puisque c'est en 1927 qu'un certain Joseph Robinson a déposé une demande de brevetage. Il a voulu donc enregistrer une invention qui est l'ancêtre de la cigarette électronique, si on peut dire. Et le but était d'utiliser un outil dans lequel on mettrait une médication et qui pourrait être fumée par les personnes qui l'utilisent sans risque de se brûler. Donc, un truc pour éviter la toxicité ou le risque d'utiliser une cigarette. Et ce brevet a été accepté, a été enregistré en 1930. Par la suite, il y a un autre monsieur, monsieur Gilbert, qui en 1963 a aussi déposé une demande d'enregistrement d'une invention. Aussi, c'est un peu la même chose, une cigarette sans tabac, qui est non toxique, qui ne fait pas de mal, qui ressemble à une cigarette et qui peut être fumée sans gêne pour la personne qui fume, accepté et enregistré en 1965. Donc ces deux inventions, il y en a d'autres, mais c'est les deux les plus connues. Donc ces deux inventions ressemblent finalement beaucoup à la cigarette électronique qu'on a de nos jours. Et si on prend le temps, 1927-1963, pratiquement presque 40 ans, durant lesquels ces inventions n'ont vraiment pas eu d'utilisation significative. Et en fait, on peut dire qu'il n'y avait pas le terrain. On n'avait pas besoin de cette cigarette électronique parce que le tabac n'était pas interdit. On pouvait fumer là où on voulait. On ne savait pas que c'était dangereux. Et donc, c'est un peu resté à part, et ça n'a pas été vraiment utilisé. En 2000, donc plus proche de nous, un Coréen, Hon Link, a eu un rêve. Il a rêvé qu'il toussait, il était gêné pour respirer, il sentait qu'il se noyait, et finalement, cette sensation a disparu quand l'eau qui était autour de lui s'est transformée en fumée. Et ce rêve, il l'a mis en... Disons, il l'a concrétisé en 2003 quand son père est mort d'un cancer du poumon. Et comme lui était un grand fumeur, il s'est dit, moi je ne veux pas avoir la même chose que mon père. Et donc il a transformé son rêve en créant la cigarette électronique. Et il a déposé aussi cette invention pour être breveté. Et c'était un peu la même chose. C'est donc un outil qui ne contient pas de goudron, qui contient de la nicotine, mais qui ne contient pas de goudron, qui n'est pas toxique, qui a été déposé comme ça, et donc qui a moins de risque de cancérogénèse, et qu'il n'y avait pas de risque de fumer parce qu'il n'y avait pas de feu. Donc il n'y avait pas de risque aussi de se brûler. Et ça a été accepté en 2004. Et ici, le terrain était beaucoup plus favorable. Et donc depuis 2004, vous voyez, en 2006, la cigarette électronique est inclue en Europe. En 2007-2008, elle est présente aux États-Unis. Et depuis 2009, c'est un marché qui augmente de façon exponentielle et ça se chiffre en milliards de dollars au niveau de l'économie dans le monde. Donc vous voyez que durant 40-50 ans, rien ne s'est passé. Et ici, pratiquement en 10 ans, il y a eu un boom extraordinaire de cette cigarette électronique, ce qui pose vraiment beaucoup de problèmes. Alors, évidemment, ce boom, il est dû à beaucoup de choses. D'abord, c'est un marché qui est très lucratif, puisque, comme on dit, c'est des milliards de dollars. Les fumeurs de cigarettes, maintenant, sont beaucoup plus sensibilisés. Ils savent qu'ils ont une habitude qui est toxique et ils voudraient bien éviter de subir les effets néfastes de la cigarette. Ils veulent aussi pouvoir fumer n'importe où. C'est interdit de fumer partout, donc ils aimeraient bien pouvoir fumer n'importe où. Ils aimeraient bien avoir une technique qui leur permet de de fumer, d'avoir les mêmes gestes, d'avoir le même aspect que la cigarette. Et la cigarette électronique n'est pas toxique. Elle va leur donner la nicotine dont ils ont besoin pour calmer leur sévrage sans toxicité. Et il n'y a pas encore de loi qui va régir, qui va limiter l'utilisation de ces cigarettes électroniques. Donc tout ça a fait que ça a été vraiment une invasion. Et vous voyez sur ces quelques photos que j'ai mises, de la cigarette électronique au cigare électronique, à la chicha électronique, à la pipe électronique, à l'utilisation de la marijuana avec des outils électroniques. Donc tout ça, vous voyez, il y a plus que plusieurs centaines de marques qui existent sur le marché. Donc ça a été vraiment un boom extraordinaire. Et tout ça soulève beaucoup de questions, dont celle de notre présentation. Alors, est-ce que nous, en tant que médecins, en tant que tabacologues, en tant que personnes qui voudraient que les gens arrêtent de fumer, est-ce que cette cigarette électronique pourrait être utile, pourrait être efficace pour aider les gens à arrêter de fumer? Est-ce que c'est réellement pas nocif? Est-ce que vraiment il n'y a pas de risque à utiliser une cigarette électronique? Est-ce que ça provoque une addiction? Est-ce qu'on ne va pas remplacer l'addiction à la cigarette par une autre addiction qui est l'addiction à la cigarette électronique? Si nous répondons oui, c'est une habitude, c'est une utilisation qui n'est pas toxique, ça peut aider à arrêter de fumer, à ce moment, probablement qu'avec cette réponse, on doit utiliser la cigarette électronique comme un outil qui pourrait aider à arrêter de fumer, qui pourrait améliorer l'efficacité de nos programmes de sévrage tabagique et surtout aussi une nouvelle notion à diminuer l'utilisation du tabac, pas nécessairement en l'arrêtant complètement, mais vraiment en diminuant l'utilisation du tabac, en réduisant la dose que les gens utilisent. Et même si c'est un peu addictif, finalement, pourquoi pas, si on devient addictif à quelque chose qui n'est pas toxique, au lieu d'être dépendant d'une cigarette qui est toxique, finalement, ce serait peut-être pas plus mal. Si la réponse est non, c'est toxique, c'est nocif, ça n'aide pas à arrêter de fumer, à ce moment, il va falloir qu'il y ait des lois qui vont limiter l'utilisation de cet outil pour éviter que ça ne soit finalement une porte d'entrée à l'utilisation de la cigarette. Parce que quand je vais utiliser une cigarette électronique, surtout chez des jeunes, surtout chez des non-fumeurs qui vont utiliser la cigarette électronique peut-être pour le fun ou pour faire comme les autres, et ils vont devenir dépendants de la nicotine, et à partir de là, ça va les pousser à devenir fumeurs pour calmer aussi leur dépendance à la nicotine. Et surtout donc, si la cigarette électronique entraîne une addiction. Donc, ça pose vraiment à ce moment un gros problème. Alors, en essayant de répondre à ces questions, j'ai essayé d'être simple parce qu'en revoyant la littérature, il y a vraiment des centaines d'articles en quelques années qui sont sortis. Est-ce que c'est un outil efficace pour aider à arrêter de fumer? Alors, je vous montre ici une étude qui est une méta-analyse, une revue systématique de toutes les publications qui a été publiée en mars 2015. Qui a revu donc toutes les publications qui ont pris tous les articles dans lesquels l'exposition à la cigarette électronique était le facteur donc qui était étudié, et le critère de jugement était: est-ce que l'utilisation de la cigarette électronique va aider à arrêter de fumer ou va diminuer l'utilisation, la quantité de cigarettes ou de tabac fumé? Alors, vous voyez que c'est des études de différents types épidémiologiques. On a des études randomisées, des études de cohorte, des cas témoins, etc. Et elles ont été incluses dans cette méta-analyse, dans cette revue. Si elles, donc, évaluaient cette variable qui est l'utilisation de la cigarette électronique pendant au moins 6 mois et chez des sujets fumeurs. Vous voyez ici rapidement qu'à partir, je vous disais, plusieurs centaines, donc 718 articles, et probablement qu'il y en a encore beaucoup plus depuis que cette étude a été publiée, de 718 articles, ils ont retenu 6 6 articles, deux études randomisées, deux études cross-sectionnelles et deux études prospectives de cohorte. Dans ces études-là, il y en a deux. D'abord, toutes étaient, donc, comme on l'a dit au début, concernées des personnes qui fumaient, donc fumeurs actuels. Deux d'entre elles, c'était des sujets qui n'avaient pas l'intention d'arrêter de fumer, donc qui utilisaient la cigarette électronique en plus de la cigarette habituelle, comme ça, pour essayer de faire les deux, pour essayer peut-être de diminuer l'utilisation de la cigarette. Deux études, les participants donc, voulaient arrêter de fumer, donc utiliser la cigarette électronique pour arrêter de fumer. Et puis deux études, c'était un peu mixé, la population comprenait les deux types de personnes. Et dans toutes les études, on permettait l'utilisation libre de la cigarette électronique selon la volonté des participants. Dans trois de ces six études, l'efficacité de la cigarette électronique donc, contenant de la nicotine a été comparée, dans la première donc, avec des patchs nicotine ou avec des cigarettes électroniques placebo, donc ne contenant pas de nicotine. Une autre étude, c'était des cigarettes électroniques placebo, et la dernière, où on comparait avec des médicaments de remplacement nicotinique, ou carrément sans aucune aide pour arrêter de fumer. Les résultats, vous voyez qu'en comparant la cigarette électronique comprenant de la nicotine avec la cigarette électronique placebo, on a un résultat positif. Donc, les gens, la proportion de personnes qui ont pu arrêter de fumer était supérieure avec la cigarette électronique avec de la nicotine que la cigarette électronique placebo. Deuxième élément de comparaison intéressant, dans toutes les études, si on regroupe toutes les études, donc dans toute la méta-analyse, on voit que aussi la diminution, l'arrêt du tabac est beaucoup plus probable, beaucoup plus fréquent. Avec la cigarette électronique et dans les populations qui utilisent la cigarette électronique. Si on s'intéresse à la réduction de la consommation de tabac, dans cette même étude, donc ils ont fait une étude qualitative et ils sont arrivés à la conclusion que pratiquement la diminution de la quantité de tabac utilisée est beaucoup plus importante quand on utilise la cigarette électronique qu'avec les autres. Alors, vous voyez dans le cadre d'en bas, en comparant cette méta-analyse à d'autres techniques de sévrage tabagique, ils ont vu que, par exemple, dans deux études, le taux d'arrêt du tabac à 12 mois avec les techniques, les produits de remplacement nicotinique était de maximum 10%, alors qu'avec la cigarette électronique, dans cette méta-analyse, ils arrivaient à 20%. Et la question posée était, est-ce que dans la cigarette électronique contenant de la nicotine, il y a d'autres facteurs qui favorisent l'arrêt du tabac que la présence de la nicotine? Et là, on peut penser que finalement, la cigarette électronique est un peu ressemble à la cigarette dans son utilisation. Donc le comportement du fumeur qui fume la cigarette, l'aspect du fumeur est un peu ressemblant s'il vapote, donc s'il prend la cigarette électronique ou s'il fume une cigarette. Et puis, la cigarette électronique permet d'inclure cette personne donc à des bénéfices sociaux dans la communauté des vapoteurs. Et la communauté des vapoteurs, ce n'est pas rien, parce que quand vous voyez dans Internet, il y a vraiment des forums extraordinaires. Il y a des centaines, voire des milliers de vapoteurs qui ont créé une communauté électronique qui est vraiment intéressante dans ce cadre. La possibilité de fumer n'importe où, puisque la cigarette électronique n'est pas encore interdite. Le fait que ce n'est pas négatif comme la cigarette. Maintenant, de plus en plus, les gens qui fument sont un peu regardés de façon négative par les autres. Bon, la cigarette électronique, ça n'a pas ce cachet négatif. Des raisons financières, puisque ça coûte moins cher que la cigarette. Et finalement, le fait qu'ils pensent que la cigarette électronique est moins toxique que le tabac en lui-même. Et donc tout ça a fait que l'explication qu'ils donnent, ils pensent que ça pourrait être tous ces facteurs qui font que l'utilisation de la cigarette électronique est plus efficace que la nicotine toute seule. Et en conclusion de cette donc, méta-analyse, ils disent que c'est une méthode efficace pour arrêter de fumer et c'est une méthode qui est efficace pour réduire aussi la consommation de tabac chez les gens qui fument. Donc, si on prend la réponse, c'est oui, c'est une technique qui peut être utile pour aider à arrêter de fumer. Deuxième question, est-ce que c'est une technique qui n'est pas toxique, qui n'est pas nocive? Et ici aussi, donc, j'ai pris un article qui a été publié en avril 2015, qui a aussi revu la littérature, tous les articles qui se sont intéressés à la toxicité de la cigarette électronique. Et la conclusion de cet article, c'est que bien qu'on a l'impression que la cigarette électronique est peut-être moins toxique et que les effets toxiques sont moindres, les données qui existent dans la littérature ne sont pas concluantes et on ne peut pas tirer une conclusion définitive par rapport à cela. La deuxième toxicité à laquelle ils se sont intéressés, c'est un peu la toxicité passive, donc c'est pas le tabagisme passif, mais c'est la cigarette électronique passive. Donc les gens qui sont exposés à la cigarette électronique, alors il y a une certaine toxicité, puisque la nicotine peut, si elle est déposée dans certains endroits, sur certaines surfaces, produire après un certain temps des nitrosamines qui pourraient être cancérigènes. Les enfants sont à risque s'ils ingèrent le liquide qui existe dans les cigarettes électroniques, surtout que c'est des liquides qui sont parfois qui ont un certain goût, un parfum qui peut être attractif pour les enfants. On a des traces de nitrosamines dans l'aérosol que la cigarette électronique produit, qui sont nettement inférieurs à ceux de la cigarette. Et finalement, s'il reste de la nicotine sur donc, des surfaces à l'extérieur, on peut donc penser à une exposition de troisième main, donc la third hand exposure, par la peau ou l'inhalation ou l'ingestion. Donc, vous voyez, c'est vraiment un peu poussé, mais il semble qu'il pourrait y avoir une certaine toxicité. Troisième question, est-ce que on peut avoir une dépendance par rapport à la cigarette électronique? Et donc, ici, c'est un article qui a été publié donc, en 2015. Même moi, je n'arrive pas à voir, je ne sais pas si vous... Bon, c'est en 2015. De la dépendance, du niveau de dépendance chez les utilisateurs de cigarettes électroniques, de nicotine, gomme ou de cigarettes habituelles. Et la conclusion de cette revue, c'est que certains utilisateurs de cigarettes électroniques pourraient devenir dépendants à la nicotine, mais c'est une dépendance qui est moins importante qu'avec les cigarettes habituelles. Ça peut être aussi addictif que les gommes de nicotine qui en fait ne sont pas très addictifs. Donc finalement, l'addiction, si on doit se baser sur cet article, est peu importante. Donc si je peux conclure à partir de cette petite revue, il est possible que, oui, la cigarette électronique n'est pas toxique. Il est possible que, oui, la cigarette électronique peut être utile pour arrêter de fumer. Et que non, elle n'est pas addictive. Malheureusement, c'est vraiment très difficile parce qu'on est en train d'essayer d'étudier quelque chose qui bouge de façon extraordinaire, puisqu'il y a des cigarettes électroniques qui sont produites pratiquement, je ne vais pas dire tous les jours, mais bon. Et donc, ce qu'on étudie aujourd'hui, les résultats qu'on va avoir pourraient ne pas s'appliquer à ce qu'on va avoir demain, donc très difficile de pouvoir tirer des conclusions et des évidences scientifiques. Et deuxièmement, encore plus, les effets à long terme de la cigarette électronique ne sont pas du tout évidents à évaluer. Évidemment qu'il va falloir beaucoup de temps. Quand on sait combien de temps il a fallu pour prouver la toxicité de la cigarette, qui a priori semble être beaucoup plus toxique, il va falloir vraiment des dizaines d'années si on veut aboutir à prouver que la cigarette électronique est toxique ou ne l'est pas à long terme. Et je conclurai sur ce texte que Jean-François Etter, donc un épidémiologiste suisse qui s'occupe vraiment de tabacologie depuis très longtemps, qui m'a semblé être intéressant parce qu'en fait il met en perspective tous les problèmes qui existent. Donc les lois actuellement qu'est-ce qu'elles font les lois? Elles sont en train d'obliger les gens à fumer, si on peut dire, parce qu'elles n'autorisent l'utilisation de la nicotine que dans le tabac, avec évidemment des restrictions, et dans des médicaments de remplacement nicotinique. Et donc les gens qui ont besoin de la nicotine vont fumer du tabac pour obtenir la nicotine dont ils ont besoin. C'est un débat très important pour lui, parce qu'en fait, il semblerait que les autorités se dirigent vers des régulations, des lois qui vont considérer la cigarette électronique comme étant, comme soit la cigarette, donc un produit qu'il faut vraiment restreindre, soit comme un médicament. Et dans les deux cas, pour lui, ce sera des lois disproportionnées qui vont limiter l'utilisation d'un outil qui pourrait être utile pour diminuer l'utilisation du tabac, qui est vraiment le fléau de santé publique. Et lui, au contraire, il propose qu'il faudrait au contraire créer des lois en prenant en considération pas seulement les autorités et la science, mais aussi les vapoteurs, les producteurs, les technocrates, tout le monde, pour arriver à des lois qui soient beaucoup plus adaptées et qui puissent permettre l'utilisation de cette cigarette électronique de façon réfléchie pour essayer de diminuer le fléau qu'est l'utilisation du tabac sous toutes ses formes dans la société. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire, bien qu'il y en a beaucoup plus.